te laisse ambiance Monsieur Bullock.
After.
After Monsieur Bullock.
After interview.
Allez, prenez la situation en
charge. Donc on descend. Je vous suis là. Et moi je sais où aller la billetterie, mais.
Donc, on va aller en bas, vous pouvez prendre un petit peu d'avance et comme ça vous pouvez le prendre.
Vous me suivez avec un truc poilu.
Et vous devez vous aller, c'est là. Peut-être que vous allez pouvoir, monsieur Bloch, vous arrêter le long de la balustrade.
Par ah oui.
Vous voyez. Là,
non, là, bah tiens.
Là,
ah, ouais. Quand même là. Genre pole dance, quoi. Là, je suis épié, là. Oh.
Il faudrait réussir à ne prendre que monsieur Bullock. Peut-être avancer, les filles.
Ah oui.
Mais bon, j'ai envie de faire un petit peu. On devrait le prendre dans l'autre sens. Alors, moi, le seul, c'est mon affaire. Voilà. Et alors, et peut-être qu'on pourrait le mettre
devant le monte-charge.
Devant le monte-charge.
Dans les toilettes.
Par rapport à la lumière, vous voyez, là, la lumière, elle est différente. Vas-y, essaye.
Bip.
Bip. Toi, il faudrait que tu...
Ah oui.
Attends.
Oui, je crois.
Tranquille, alors.
Que tu prends une deuxième
étape. Il y a un miroir, regarde. Une mise à Nadine.
C'est bon ? Vous avez fait des photos ou pas ? Mais Sophie, tu peux jouer le vidéo, regarde, là, c'est moi qui
t'ai fait.
Qu'est-ce que je reçois ?
Regarde, mais va prendre le sang. C'est pas faire, hein.
C'est bon,
tu es prête?
Il va ressortir là.
Ah, il ressort.
C'est pas ça naturel. On est bon. Allez, on te descend. Et ça peut être des sons à prendre, effectivement.
Il y a une jolie lumière dans le miroir là.
Je prends le son.
Allez, go.
Je pense que pour les plans serrés, Monsieur Bullock qui regarde le programme, peut-être.
Oui. Oh.
Attends.
Tu lui rends des brebis.
Ok. C'est où la vidéo?
Voilà.
deux invités. Thomas. Au Grand Théâtre, oui, ça a été retrouvé ce matin en faisant le ménage. D'accord, merci beaucoup. Vous aussi, au revoir. Bonjour.
Est-ce que on peut faire une photo de Monsieur Bouloc quand il vient à la billetterie pour le projet Flux?
Faire comme si j'achetais un billet.
Ah, j'ai l'habitude de prendre comme ça en fait. Oui, si vous voulez. Peut-être comme ça les filles, non? Comme ça vous avez aussi la dame à son dossier.
Non, madame, je ne vous prends pas.
Ah, vous ne voulez pas qu'elle vous prenne?
Non, ok.
Voilà, comme ça, ben, c'est ça.
C'est évident avec la
maman. Après, je récupère, je vous les rends de suite, c'est pour dire.
Allez, venez là. C'est bon? Allez.
Voilà. Merci.
C'est bon, elle l'a pris ou pas?
Et peut-être, est-ce qu'on ferait pas un plan serré sur ses mains avec le billet?
Oui, voilà, moi je l'ai
fait. Des billets, c'est pour le. Oui, ou pour le.
Alors, j'en prends juste un, parce que sinon, ça va faire.
Et pas forcément sa tête, hein, justement. On, oui. Là, on, enfin, je ne sais pas si on peut faire comme ça.
Vous l'avez vu, moi?
Ah, mais il y a pas qui? Il y a le titre.
Et oui, il y a le titre.
Je pense que c'est bon.
C'est bon?
C'est bon, les filles?
Merci.
Est-ce qu'on peut, on peut les regarder, les photos? On sait faire ça ou pas?
Il y a du matériel pour faire un.
Je peux mettre pause.
Moi, je suis pas sur la photo.
C'est pas évident, on apprend.
Oui. Ça va faire peut-être un peu contre-jour.
Ah, ben.
Ça prend une série.
Hein?
Prenez-le un peu de temps, sinon on sera pas un contre-jour.
Ah, ben oui. Si.
Voilà.
Ah, attends.
Vous êtes
déjà dehors?
Oui, il y a l'appareil photo.
Il y a déjà Louis dehors, d'accord, mes photos.
Ah, l'air frais.
Là, comme ça.
Assis. Tu ne veux pas te rapprocher?
Vous retouchez les photos là, vous les retouchez, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
Merci.
Avec plaisir.
Bonne cantine. On monte, on va chercher les affaires.
Par contre, s'il fait une plus belle photo que moi, surtout.
L'attestation à faire signer. Tu peux pas t'essayer.
Ouais.
Aujourd'hui, nous allons vous interviewer avec ma camarade Faustine qui va enregistrer le son, Nina et Coralie qui vont prendre les photos et moi, je vais vous poser les questions. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, alors moi je m'appelle Nadja, voilà, je suis comédienne et marionnettiste.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis également comédienne et marionnettiste et ce spectacle a été notre premier vrai spectacle de marionnettes.
Bonjour, je suis Anaëlle Guez, comédienne marionnettiste et je co-dirige la compagnie Panam Piloti qui produit ce spectacle.
Quelle place avez-vous dans la compagnie Panam Piloti?
Comme vient de le dire Anaëlle la co-dirige et Sarah et moi, on est comédienne, on fait partie de la troupe de la compagnie.
Est-il facile de se lancer en tant qu'artiste?
Alors là, c'est une question dont la réponse va vraiment dépendre des personnes. Il y a des gens dont la carrière décolle tout de suite. Dans mon cas, ça a été très lent. D'abord, je me suis formée comme comédienne assez tard. Et je pense que j'ai commencé vraiment à travailler de manière régulière, de manière constante, sans avoir à m'inquiéter de quand serait le prochain spectacle, quand j'avais 40 ans, il y a 10 ans.
Alors moi, je n'ai pas du tout le même parcours que Sarah. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger et j'ai commencé ma carrière à l'étranger. Et elle a commencé très vite dans un gros théâtre. Et voilà. Et après, je suis rentrée en France. Le démarrage a été en fait relativement rapide quand même. En un an, ça s'est remis. Voilà. Donc comme dit Sarah, c'est très variable.
Et pour moi, j'ai démarré très tôt. À 20 ans, j'ai commencé à gagner ma vie avec ce métier, ce qui était une grande chance, et depuis ça continue. Et on a beaucoup de chance.
Est-ce que vous avez réussi à vous lancer tout de suite? Il y a-t-il eu des mauvais moments à passer?
Des mauvais moments, oui, il y en a. Il y en a des fois parce qu'il n'y a pas assez de travail ou des fois parce qu'il y en a trop. Après, moi, je peux vous parler d'un moment particulier qui a été compliqué. Je tiens à en parler parce que j'étais jeune à l'époque. J'ai eu des difficultés dans ma carrière. Ça a été vraiment le seul moment. C'était la première fois où j'ai été enceinte. Voilà, j'étais assez jeune, j'avais 27 ans. À l'époque, je ne travaillais pas en France. Je travaillais dans une troupe permanente en Russie. Et ça a été un passage un petit peu compliqué à gérer. Mais c'est un problème qu'on peut retrouver régulièrement quand on est comédienne. Voilà.
Des moments difficiles, ils peuvent être de deux ordres. Il peut y avoir les moments où on n'a pas de travail de comédien, de comédienne. Mais ça, on peut aussi en faire une force. C'est-à-dire que moi, je considère que tout ce qu'on fait dans la vie, ça peut nous servir au métier de comédien et de comédienne. Moi, je n'ai aucun regret sur toutes les autres choses que j'ai faites. De servir dans un bar ou dans un restaurant, de donner des cours particuliers d'anglais, de faire d'autres activités. En fait, on accumule de la matière humaine et ça, un jour, on pourra le réinjecter dans notre métier. Donc, ça peut être difficile à passer parce que nous, on a envie de jouer. Et quand on doit faire autre chose, on se dit... Mais en fait, c'est jamais du temps perdu. Et quand je dis que moi, j'ai commencé ma carrière de comédienne assez tard, je ne le regrette pas non plus parce que toutes ces expériences, elles sont venues nourrir mon travail. Les autres types de moments difficiles, ça peut être des moments où dans le travail, c'est douloureux. Parce qu'un spectacle, ça peut être compliqué à construire. Il peut y avoir des tensions humaines entre les personnes qui participent. Et on préfère toujours travailler dans la bonne humeur, mais parfois, il y a des moments durs, parce qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue aussi. Quand on est fatigué, on se parle souvent moins bien que quand on n'est pas fatigué. Et donc, tout ça, il faut apprendre à le travailler, mais comme dans n'importe quel métier, on va traverser des nœuds où on ne trouve pas la solution pour une scène ou pour un effet visuel, et on cherche, mais ça rend le moment où on trouve beaucoup plus savoureux.
Et j'ajouterais que c'est un métier qui fait quand même beaucoup appel à nos émotions, à notre être tout entier. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut savoir gérer. Et des fois, ça n'est pas gérable. Et des fois, ça l'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est souvent dans l'instant présent et que ça nous permet d'avancer.
Pratiquez-vous d'autres disciplines artistiques?
D'autres disciplines artistiques? C'est-à-dire, tu veux dire chant, danse, ouais. Ce genre de choses? Moi, ça fait partie de ma formation. J'ai appris le chant et j'ai un petit peu dansé, mais c'est pas... Voilà, comme ça.
Alors moi, je suis aussi traductrice et je considère que c'est une pratique artistique. Et en fait, je dis souvent, et c'est pas qu'une formule, que jouer et traduire, c'est le même métier. C'est-à-dire, c'est mettre sa voix à la disposition des mots de quelqu'un d'autre. Et c'est pour moi les mêmes muscles émotionnels, psychiques, intellectuels, et même physique, parce que je bouge beaucoup quand je traduis, qui sont en jeu. Donc oui, j'ai cette autre pratique, et elles se nourrissent l'une l'autre.
Et en démarrant la marionnette avec ma compagnie, j'ai décidé de me former à la fabrication de marionnettes. J'avais déjà un petit talent d'art plastique quand j'étais plus jeune et j'ai pu participer à un stage, à une formation avec une ponte de la marionnette, Natacha Belova. Et donc j'ai appris à fabriquer des marionnettes en 3 semaines. Et donc c'est une nouvelle corde à mon arc aujourd'hui qui nous permet de pouvoir travailler aussi encore plus en autonomie avec notre compagnie, en ce qui concerne en tout cas la marionnette.
À quel moment avez-vous su que vous vouliez vous produire sur scène ?
Ah, eh ben écoute, moi je crois que c'est à peu près à ton âge. Je pense, oui, en quatrième. Oui, c'est même sûr, c'était en quatrième.
Moi, ça a commencé très tôt. C'est-à-dire que même en primaire, je passais toutes mes récrés avec mes 2 meilleures copines à préparer des spectacles qu'on jouait ou pas à la fin de l'année. Et puis j'ai eu la chance qu'une de mes meilleures amies, sa marraine, soit comédienne. Et pour un spectacle, elle avait besoin d'un couple d'enfants pour commencer le spectacle. Et donc, j'ai joué 2 soirs par semaine dans un tout petit théâtre des Pentes de la Croix-Rousse à Lyon quand j'avais 8 ans. Et j'ai adoré ça. Et à partir de là, je ne me suis pas vraiment arrêtée, même s'il m'a fallu longtemps pour me dire que je pouvais en faire mon métier.
Pour moi, c'était 14 ans. Je prenais des cours de théâtre à Paris sur une péniche avec des amis. Et c'est arrivé. On jouait régulièrement au théâtre Mouffetard tous les ans. J'avais la grenouille d'or parce qu'on avait des récompenses. Et en fait, c'est arrivé très vite, quoi. Voilà.
Quelle est votre motivation ?
La motivation pour jouer ? Pour faire ce métier ? Ah, c'est complexe ta question. La motivation, je pense que c'est un peu ce que disait Sarah et Annelle. En fait, c'est t'as envie, tu sais pas trop expliquer pourquoi. C'est là. Moi, je sais que personnellement, ce que j'aime beaucoup et de plus en plus, c'est le travail de groupe. J'aime beaucoup le fait que... C'est pour ça que je préfère le théâtre, par exemple, au cinéma, on va dire, en tout cas, même si c'est aussi un travail de groupe, mais j'aime bien le fait qu'on soit tous interdépendants, que ça ne peut fonctionner que si tout le monde est là, que si tout le monde est présent et que si tout le monde travaille ensemble. Moi, je sais que c'est ça qui me plaît de plus en plus. Donc, ma motivation, ça serait peut-être ça, je crois.
Bah, c'est quand même un des seuls métiers où tu peux vivre plein de vies en une seule vie. Donc, pour moi, je dirais que c'est une grosse motivation.
Et pour moi, je dirais la nécessité à raconter. Je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'artiste et que de dire, de dénoncer, de raconter des histoires, c'est primordial. Et moi, je sais que c'est une nécessité de monter sur scène pour dire et raconter au monde et semer des graines pour des jeunes comme vous.
Votre indépendance est-elle assurée ?
Notre indépendance financière, tu veux dire ? C'est de ça dont tu parles ?
Qui a posé la question ?
Qui a écrit cette question ? Tu veux dire indépendance financière ? Est-ce qu'elle est assurée ? Alors là, pour l'instant, nous, elle est assurée pour les 2-3 années à venir. Mais en règle générale, on peut dire que c'est un métier où on ne sait jamais. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup, beaucoup de travail, des fois même trop, mais tellement que tu voudrais qu'il y en ait moins. Et puis tout d'un coup, il va y avoir des années qui sont beaucoup plus compliquées. Et des fois, tu as une très forte visibilité. Là, c'est notre cas, parce que le spectacle, par exemple, qu'on est en train de jouer, que vous allez voir cet après-midi, on le joue beaucoup, et puis il y a une création qui s'annonce, etc. Mais il y a toujours des périodes où on ne sait pas. Donc c'est peut-être ça qui est compliqué dans notre profession, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas être assuré, de ne pas avoir des contrats longue durée. Mais c'est peut-être aussi ça qui en fait sa force, parce qu'on est toujours comme ça, sur un état un peu, tu vois, un peu en équilibre, à ne pas savoir, et que même des fois, la peur, ça motive, l'angoisse, je sais pas.
Et puis en France, il y a un truc formidable qui s'appelle l'intermittence, qui permet quand même d'assurer une forme d'indépendance aux artistes. Mais pour répondre à une autre interprétation possible de ta question, Anaël pourra rebondir sur l'indépendance de la compagnie Panam Piloti. Ce spectacle, il a été créé sans argent public. C'est la compagnie qui a entièrement financé le spectacle, justement pour être indépendant, pour pas avoir à rentrer dans des cases, pour faire exactement le spectacle qu'il voulait faire. Parfois, l'indépendance, c'est ça. C'est-à-dire pouvoir dire non, moi, j'ai pas envie de raconter ce que vous, qui donnez l'argent, avez envie que je raconte. Donc, il faut pouvoir garder sa liberté. Et puis, alors, moi, à titre personnel, le fait d'avoir un autre métier, d'être aussi traductrice, me donne de l'indépendance parce que je ne fais que des projets théâtraux que j'ai vraiment envie de faire. Je vais pas accepter un rôle qui me fait moyennement envie parce que je sais que j'ai un autre moyen de gagner ma vie. Et que donc ça me permet d'être libre.
C'est toujours une insécurité, notre métier, et ça le sera toujours jusqu'à notre retraite, on ne sait pas à quel âge.
Tu ne veux pas mourir sur scène, toi ?
Si, je veux mourir sur scène, mais marionnettiste à 64 ans, ça va être difficile. C'est une insécurité. Après, je pense que l'entourage, la famille qu'on se construit dans ce métier nous sécurise, en fait. Et c'est vrai que l'intermittence est une vraie chance pour nous en France. Et je rejoins Sarah, oui, sur l'autoproduction, on a une vraie liberté, et du coup, c'est un luxe de pouvoir s'offrir ça, ce qui ne nous empêche pas de devoir travailler à côté pour pouvoir autoproduire les projets. Donc, ce qui demande aussi d'autres ressources, par exemple de l'événementiel, pour pouvoir nourrir financièrement une compagnie, pour pouvoir ensuite nourrir de l'artistique. Enfin voilà, c'est les vases communicants, mais après, c'est chaque histoire en fonction de chaque compagnie.
Lorsque vous n'êtes pas sur scène, comment êtes-vous rémunéré, par qui et comment faites-vous pour vivre ?
Ben là, c'est ce dont Annelle et Sarah parlaient, c'est le système de l'intermittence. En fait, tu dois faire un certain nombre d'heures de travail, 507 exactement, que tu dois faire sur un an. Et si tu arrives à faire ce nombre d'heures, du coup, tu es officiellement artiste et chômeur officiellement. Oui, on va dire officiellement chômeur, effectivement. Et l'État va te verser un chômage. Et ça sera en fonction du nombre d'heures que tu as fait, en fonction du salaire que tu as gagné pendant les périodes où tu travaillais. Ils font une moyenne. Et donc, les jours où on travaille, on est payé par nos employeurs, différentes compagnies. Et les jours où on ne travaille pas, en fait, c'est l'État qui nous donne notre chômage. C'est une forme de chômage particulière parce qu'elle est renouvelable chaque année.
En tant qu'artiste, que pensez-vous de la SNA ?
La scène nationale d'Albi ?
Vas-y, ça.
Alors, moi, je veux bien en parler parce que j'ai déjà joué ici, mais je n'avais pas joué dans le théâtre. En 2020, juste avant que tout s'arrête, j'ai joué un spectacle en itinérance qui s'appelait Gaïa dans le camion à histoire. C'est un ancien camion de pompiers qui a été converti en petite salle de spectacle. Et donc, j'ai joué dans des écoles autour d'Albi. Mais tout ça a été organisé par la SNA et on a été super bien accompagnés. C'était très agréable parce qu'on sentait vraiment que c'était un projet important pour l'équipe de la SNA, et ils nous ont très bien guidés, accompagnés, suivis là-dessus. Et donc, je leur avais à l'époque parlé de ce spectacle-ci, Les yeux de Taki, et j'ai été vraiment très heureuse d'avoir l'occasion de revenir ici. C'est un très bel endroit, c'est une scène nationale pour nous, c'est un honneur de venir jouer dans ce type de lieu. Alors là, on joue dans la petite salle qui est super. C'est ce qu'on appelle une boîte noire. C'est très adapté à notre type de spectacle parce que nous, on a besoin d'un vrai noir pour faire de la marionnette qui soit éclairée de manière précise. Mais vous avez aussi une très grande salle qui est magnifique pour des spectacles qui ont besoin de cet espace-là.
Et y a-t-il une particularité à la SNA dont vous voulez nous faire part ?
On vient d'arriver, enfin, les copines viennent d'arriver, donc peut-être que c'est une question qu'il faudrait nous reposer à la fin de notre séjour.
Est-il différent de faire un spectacle dans une petite ville comme Albi et dans une grande ville comme Paris ?
Ah, grand sujet. Alors, ouais, vas-y Sarah, si tu veux. Alors nous, à Paris, on n'a pas joué Taki, parce qu'à Paris, il y a peu de théâtres qui achètent les spectacles, c'est souvent des co-réalisations. On marche à la recette et c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir être achetés dans plein de lieux différents en Île-de-France et même à l'étranger. Et non, il n'y a pas de différence, on joue dans tous les lieux de la même façon pour nous.
Non, c'est beaucoup plus agréable de jouer ici que de jouer à Paris parce que ici on est hors de notre quotidien, donc on peut se consacrer totalement au spectacle. Albi, c'est une très belle ville, donc c'est très agréable de pouvoir aller se promener dans les rues de la vieille ville entre deux représentations. Et puis, quand on est logé près du théâtre, il y a une espèce de confort. Si on jouait à Paris, on serait chez nous, il faudrait qu'on fasse notre lessive, qu'on s'occupe des enfants, le quotidien nous envahirait, et puis il faudrait se précipiter dans les transports en commun ou faire 45 minutes de vélo pour aller jouer. En fait, on préfère jouer en tournée,
oui,
voilà. Surtout dans des très belle ville comme Albi, où on joue en ville et non pas dans une zone industrielle où il n'y a que Domino Pizza pour manger après.
C'est fini.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Adorable. Donc, n'aie pas peur. Jusque-là, elles ont agressé personne. Ça devrait y arriver.
Mais peut-être qu'il faut qu'on avance au moins, parce que là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le choix.
Poil dans l'ombre, ouais. Non ? Comment ça donne ? Tu penses que c'est trop sombre ?
Là, c'est mieux ?
C'est mieux, là ?